la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire. Le théâtre du peuple, c'est un monde rêvé il y a 130 ans à Bussan, dans une vallée des Vosges. Maurice Potcher, un homme de lettres, un poète originaire de Bussan, va écrire les textes pour la scène et sa femme Camille de Saint-Maurice, qui est comédienne, dirigera la troupe. C'est eux deux qui vont fonder en 1895 un théâtre populaire destiné aux habitants de cette vallée des Vosges, dont ils firent à la fois des amateurs, des connaisseurs, des praticiens, sur la scène comme dans la salle. Et on peut dire qu'ils ont été les précurseurs d'un théâtre décentralisé. Sensible aux problématiques de la vie locale, désireux de la valoriser, les deux fondateurs du Théâtre du Peuple vont intégrer les habitants à des projets qui les concernent. Leurs histoires, leurs larmes, l'amour, l'alcoolisme, la mort et la guerre s'y présentent à cette frontière avec l'Alsace et bien sûr la nature et le ciel somptueux sous lesquels ils jouaient. Un documentaire signé Aurélien Frances et produit par Silence Podcast, la société de production d'Aurélien Frances qui arpente toujours le territoire à la fois dans la solitude et la rencontre. C'est un paradoxe que permet la radio.
Tout de suite, la première pensée que j'ai eue, moi, c'est que c'était une cabane. C'est le côté bois. Certains de mes prédécesseurs ont utilisé aussi beaucoup cette image du bateau. Avec sa serpente retournée comme ça, comme une coque de bateau. Et puis le côté, qu'est-ce que c'est que d'être le capitaine de ce bateau? Enfin, l'idée d'un lieu qui bouge. Voilà. Et puis après, j'ai appris qu'on l'appelait la ruche. Ça m'a aussi beaucoup plu. La ruche avec ses os, avec tous ses éléments, ses cadres qui se mettent, qui se défont. La symbolique de l'organisme vivant aussi.
Je m'appelle Julie Delisle et je suis artiste, metteuse en scène, comédienne et directrice du Théâtre du Peuple de Bussan, dans les Vosges. En fait, il est vivant. Il change perpétuellement. Il va se modifier en fonction de l'humidité, des sécheresses. Cet été, on a eu deux inondations par le fond lors de gros orages. C'est ça qui est beau aussi, le fait qu'il bouge, ça fait qu'on est toujours un peu attentif. Je dirais comme tu peux pas le laisser comme ça pendant des plombes sans le surveiller, sans l'observer. On est un monument historique, donc c'est fait de manière très très sérieuse. C'est un lieu, effectivement, dont on a découvert qui pouvait vivre des tempêtes, et puis il le vit à plusieurs niveaux. Il le vit même de manière métaphorique ou dans son histoire. C'est un lieu qui a connu des crises très difficiles, des guerres, deux guerres, des morts. C'est pas du tout un lieu qui, en 130 ans, est resté calmement niché dans son coin de vallée de montagne où il s'est rien passé. Il y a toujours des histoires pas possibles ici. Donc il a été malmené à beaucoup de moments. Comme les habitants ici, il a vécu la même chose. C'est pour ça qu'ils sont si proches de caractère, peut-être. La cabane, c'est ce qui va le plus me parler, parce que je pense à quelque chose de la joie quand on est dans ce lieu de jeu, de l'enfance, de tout ce que ça peut signifier. Tu as vu quand les portes s'ouvrent, ce côté un peu, les gens vont évoquer, enfin ils vont dire des mots comme de la magie, tout de suite ça va les mettre dans l'instinct aussi. Donc on a tendance à rapprocher tout ça de l'idée de l'enfance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les comédiens, les acteurs, les actrices, ils ont besoin de cette part de l'esprit d'enfant. Ils le quittent jamais vraiment. Et ils font un métier qui est proche de celui du métier d'enfant.
Là, on marche dans la pelouse du parc, qui est un endroit très apprécié du public, puisque c'est ici que les gens viennent flâner avant le début des représentations, pique-niquer, s'installer, se reposer, profiter du cadre vraiment magnifique qu'il y a ici. On est tout entouré des montagnes, de la forêt, on est vraiment en lisière de forêt, et on a face à nous le théâtre. C'est un bâtiment assez modeste. En fait, le bâtiment principal, la salle, n'est pas isolée. Donc, c'est simplement des planches de bois. C'est à la fois un bâtiment assez ordinaire dans le paysage vosgien, parce que des bâtiments tout en bois, on en voit d'autres ici dans la vallée. Et donc, je trouve qu'il s'intègre assez bien dans son environnement. Parfois, les gens me disent, on dirait un champignon qui a poussé dans la forêt, parce que c'est vrai que tout autour, on a des arbres et finalement, le bâtiment s'intègre bien au milieu de tous ces végétaux. Et en même temps, il est assez atypique, assez extraordinaire, unique, singulier, quand on sait que c'est une salle de spectacle. Et qu'à l'intérieur, il y a donc une salle qui peut accueillir 800 personnes avec une immense scène. Et donc, voilà, il est à la fois ordinaire et extraordinaire. Je m'appelle Héloïse, Héloïse Erhardt, et je suis chargée des relations avec les publics, ici, au Théâtre du Peuple. En fait, le Théâtre du Peuple, au départ, c'est un théâtre de verdure, un théâtre de plein air, qui est créé par Maurice Potcher en 1895. Alors, Maurice, c'est un jeune poète vosgien qui naît ici à Bussan dans une famille d'industriels. Et il crée ce lieu avec son épouse, Camille de Saint-Maurice, qui, elle, est comédienne professionnelle. Et il le crée avec le désir de régénérer l'art de son temps au contact de la nature. Et au départ, en 1895, c'était simplement une scène posée dans un pré, dans une prairie. Et au-dessus de cette scène, s'est construit un cadre de scène. Et puis quelques années après, Maurice Potcher a fait construire une tribune pour surélever une partie du public. Mais le parterre était encore à ciel ouvert. Puis ensuite, il va faire construire une grande toile pour protéger le parterre de la pluie et du soleil. Et puis, il va finir par refermer le bâtiment en faisant installer par des artisans locaux une charpente avec un toit, des murs. Et puis, au fil du temps, il y a des petites parties chalets qui vont venir s'imbriquer de chaque côté du théâtre pour offrir un peu plus d'espace aux personnes qui travaillent ici. Donc, des espaces pour les loges, pour permettre aux artistes de se préparer, des chambres à coucher pour les héberger au moment des répétitions et des représentations, un foyer pour accueillir le public, servir à boire, à manger, des espaces pour les costumes, la confection, l'entretien, des espaces de stockage pour le matériel, son, lumière. Évidemment, de l'autre côté, on en parlait tout à l'heure, les bureaux de l'administration, la billetterie. Et donc, au fil du temps, le bâtiment s'est développé en fonction des moyens du bord et des besoins du moment. On a l'impression qu'il y a un peu des passages secrets un peu partout. Et j'en découvre encore. Quand on regarde au fond du parc, il y a une tombe. On va aller s'approcher. Donc on est au pied de la tombe. C'est une tombe assez simple, qui est recouvert d'un petit parterre de fleurs, qui là, c'est plutôt un parterre de feuilles mortes d'automne. Donc c'est ici que sont enterrés Camille et Maurice, les fondateurs du Théâtre du Peuple. Et ils ont été enterrés à côté du théâtre selon leur volonté, ce qui est assez rare. Et donc c'est une présence toute particulière pour nous qui travaillons ici. Et encore plus quand on croit aux esprits et aux fantômes. Et le théâtre est quand même un milieu encore très superstitieux. Les fondateurs, Camille et Maurice, ils sont à notre esprit en permanence. Ils font partie de nous, de l'équipe, c'est des entités. Et le fait qu'il y ait un espace physique qui matérialise leur présence, ça renforce cette idée. Ils sont pour nous, oui, exemplaires, inspirants. Ils ont fait preuve d'audace, d'amour. Donc c'est un phare dans la nuit pour nous.
Maurice Potcher est issu de Busan. C'est un vrai poète de nature qui part à Paris parce que c'est l'endroit où on peut essayer d'exister quand on écrit à cette époque-là, qui fréquente le milieu culturel, intellectuel parisien. Il y rencontre Camille Camé de Saint-Maurice, qui deviendra sa femme, Camille Potcher, qu'on appellera Tante Cam. Et en étant à Paris... La réception de son œuvre à Paris ne se fait pas comme peut-être il pourrait le souhaiter, malgré son talent. Et puis, il est traversé de grandes questions liées au fait de proposer de l'art, en tout cas une certaine forme de culture, toujours un peu à un même milieu, à un même type de personne. Et ça le travaille quand même. Et ça travaille aussi Camille. Et puis, ils ont une occasion comme ça, un peu impromptue, à l'occasion du centenaire de la République, il est demandé à chaque village de France de faire une pièce de théâtre. Et son père, qui est maire, lui dit « Viens avec tes amis, vous allez nous jouer une pièce de théâtre à l'occasion de ce centenaire de la République. » Donc, ils choisissent une pièce de Molière, Le médecin malgré lui. Et il vient jouer avec certains de ses copains, mais il n'y a pas assez de rôles. Donc, il engage des gens du coin. Et ça va être vraiment la base aussi de la philosophie potchérienne, c'est-à-dire très vite il va se rendre compte, ça a un succès fou. L'année d'après, il écrit une pièce. Et en recrutant les gens des usines de Potcher ou les notables du coin pour venir jouer les rôles des pièces que Maurice écrit. Et tous ces comédiens amateurs et amatrices sont formés par Camille, qui est une comédienne de renom. Et donc voilà, ils sont venus tous les deux, ils se sont lancés comme ça, et puis d'été en été, chaque fois une pièce différente, l'aventure a pris une ampleur incroyable, une réputation a grossi comme ça, et c'est devenu une aventure familiale, villageoise, etc., qui a pris à chaque fois par les volontés aussi des gens du coin, beaucoup, qui sont venus dire ce lieu il existe, nous... Voilà. Et on voit qu'il est conçu architecturalement parce que c'est très étonnant. À l'époque, c'est pas du tout le genre de lieu qu'on pouvait construire. D'abord, il a été construit par les gens du village, notamment les Hans, qui sont des menuisiers, dont les descendants sont encore là et présents dans l'association. Et puis la menuiserie Hans, elle existe toujours. On continue de travailler ensemble et qui ont conçu en fait ce lieu incroyable architecturalement avec cette pente à 7% sur la Seine, aussi dans l'espace dans lequel sont les spectateurs. Et qui fait que ça a été pensé pour que chaque personne qui soit dans le théâtre ait le même point de vue et la même qualité de perception de la représentation, à la différence d'un théâtre à l'italienne qui va être très différent, où tu vas avoir des gens complètement au poulailler qui voient rien, des gens qui se montrent dans les loges, etc. Là, vraiment, tout le monde voit et entend à peu près pareil. Et ça, c'est très novateur. Et c'est se dire aussi qu'à la base, c'est vraiment une utopie. Waouh, quoi ! 130 ans d'une maison, 130 ans d'un théâtre, c'est ultra émouvant. Il y en avait d'autres, des théâtres comme ça autour, qui existaient. Pourquoi celui-là, il a tenu ? Parce que je crois qu'il a su devenir mythique. Et c'est ce qui fait qu'on continue d'avoir cet afflux de pèlerins. Franchement, c'est un peu une sorte de pèlerinage, quoi. de gens qui continuent de venir alors qu'il n'y a eu aucune apparition. Il y a cette apparition quand on voit le réel au travers des portes, mais j'ai pas connaissance d'une apparition mystique ou quoi que ce soit, mais il y a tous ces pèlerins.
Aux confins de l'Alsace et de la Lorraine, niché dans un cirque naturel des montagnes vosgiennes, un petit village, à Bussan, c'est son nom, se dresse en effet depuis 66 ans le plus ancien théâtre populaire de France. Ce public réalise parfaitement l'idéal poursuivi par Maurice Potcher en créant son théâtre. Toutes les classes sociales s'y côtoient et communient dans le rire ou l'émotion. Lorsqu'il fallut donner un nom à cet enfant, quelqu'un suggéra « Théâtre du peuple ». Titre que Maurice Potcher adopta sans savoir encore qu'il répondait aux aspirations de Michelet. Au moment de sa création, ce théâtre fut une révélation en France, et même à l'étranger, où Maurice Potcher fut appelé à Moscou, en Roumanie, en Tunisie, comme grand spécialiste du théâtre populaire. Maurice Potcher est un poète. Il a chanté avec ferveur ses Vosges qu'une lumière changeante part de multiples attraits, ce pays où il a puisé sa sève, ce Val qui est un nid sans être une prison. En œuvrant par le peuple et pour le peuple, il applique sa devise inscrite au fronton du théâtre, par l'art, pour l'humanité.
Le danger du lieu ? C'est qu'il a un fort poids patrimonial. Et ça, c'est pour moi un point de vigilance. C'est très important, le patrimoine, l'histoire, le lieu, voilà, c'est très important, la mémoire, c'est très important, le bâti dans son histoire, etc. Mais ça reste un lieu de création. Et donc, ça doit être une richesse d'être dans ce fort lieu de patrimoine. Ça doit jamais devenir un lieu qui finisse par tomber dans une sorte d'animation patrimoniale, de finir par finalement plus fatigué à essayer des nouvelles choses, plus avoir cette audace de l'utopie, et puis petit à petit de faire une espèce de tradition qui s'éteint, qui est de moins en moins vivante. Ça tient à l'état d'esprit dans lequel on fait les choses et pas vraiment que aux choses qu'on y fait. Énormément de gens viennent visiter le lieu. Et il y a toujours, tous les jours, des gens ultra surpris qu'on y fasse encore des pièces de théâtre, que ce soit plus de Maurice Potcher, que ce soit plus en costume d'époque, et que ce soit du théâtre contemporain, par exemple. Ils tombent des nus, parfois, ils n'y croient pas. Moi, j'ai l'impression que ce lieu, il est toujours en avance. Et que ça me plaît, moi, en tant qu'artiste, de coopérer avec un lieu qui a cette avance-là pour moi, bah, peut-être grandir, en tant qu'artiste, me poser des questions importantes. Il m'aide à ça. On se met à agir avec le lieu, et moi j'ai vraiment l'impression de co-diriger avec le lieu. Il y a des trucs que je peux vouloir toute seule, s'il n'est pas d'accord, ça passera pas. Et on le sent nettement.
Donc on entre à l'intérieur de la salle, en passant par la porte côté jardin, qui nous amène directement au centre de la salle. Il y a une jolie lumière naturelle qui traverse les carreaux et qui se reflète sur le parquet de la salle. C'est très joli. Donc on est dans le théâtre, on est à l'intérieur de la salle. Et alors là, tout est en bois. Le parquet est en bois, les bancs sur lesquels on est assis sont en bois. C'est des bancs très rudimentaires, avec un dossier. Au-dessus de nos têtes, on a un faux plafond. Qui ressemble un peu à une coque de bateau renversée. Parfois, on me dit « Ah, ça me fait penser comme si on était à l'intérieur d'un tonneau. » En tout cas, il y a un voyage dans le temps qui se fait. C'est un lieu qui nous ramène à une autre époque. Et donc, cette scène, elle est assez immense. Elle est très large. Et autour de la scène, il y a un cadre de scène qui est décoré avec du bois. Un décor typiquement vosgien, dit-on, parfois. Avec des branches, des écorces, on devine à nouveau du bouleau, donc là, les parties les plus claires, puis un bois plus foncé. Et puis en dessous du cadre de scène, il y a le nez de scène qui est habillé d'un joli mur de pierre. Donc on passe du bois à la pierre, au minéral. Et alors il y a une légende autour de ce mur de pierre. Il paraît qu'il y a dans ce mur une pierre qui proviendrait du théâtre de l'Acropole à Athènes, que Maurice Potcher aurait emprunté lors de l'un de ses voyages en Grèce. Donc il aurait rapporté dans ses valises un petit fragment de marbre qui proviendrait du théâtre de Dionysos. Et il l'aurait incrusté ici à Busan pour rappeler l'origine du théâtre, le théâtre antique. Et puis ça devait l'amuser d'imaginer que ce petit fragment de marbre avait dû entendre de grandes voix et qu'ici il continuerait à entendre de grandes voix. Et le théâtre du peuple, il est connu dans le monde entier pour son fameux fond de scène qui s'ouvre sur la forêt. Et donc quand on est en salle, on voit cette belle scène et au fond de la scène, il y a quatre belles portes en bois. Et ces portes s'ouvrent, elles sont coulissantes, elles sont immenses. Et elles donnent sur l'extérieur, de l'autre côté. Et ben on va aller les ouvrir ensemble. Qu'en dis-tu ?
Avec grand plaisir.
Et on va pousser ensemble les portes qui sont coulissantes. Tu peux te placer ici, en poussant comme ceci. Maurice Potcher, quand il fonde le Théâtre du Peuple, il a un désir très profond, c'est de régénérer l'art de son temps au contact de la nature. Et donc au contact de la nature, on y est ici, on y est à l'intérieur de ce bâtiment qui est tout en bois, fait avec des matériaux naturels, des matériaux qui ont été pris à proximité. C'est du bois issu des forêts vosgiennes. Et en 1895, au moment de la fondation du Théâtre du Peuple, il y a déjà un arbre qui a une place toute particulière au fond de la scène. C'est ce être qu'on a sous les yeux, qui est un être qui est sans doute plus âgé que le théâtre lui-même, donc il a peut-être 200 ans. Et ce être, sans doute que Maurice Potcher avait envie qu'il soit là, tout près du théâtre, dans le fond de scène. Et quelques années après, quand le bâtiment en fait, a évolué, s'est refermé, petit à petit, architecturalement, il y a eu une volonté de refermer le fond de la scène. Et Maurice Potcher a dit « Ah, on peut refermer, mais il faut pouvoir continuer à ouvrir. » Et donc, ils ont installé ces portes qui permettent encore aujourd'hui de fermer et d'ouvrir autant de fois qu'on le souhaite. Et donc, chaque artiste qui est invité à créer au Théâtre du Peuple est invité à intégrer ce fameux fond de scène ouvert sur la forêt au spectacle en fonction de son imagination, de l'histoire qui est racontée. Et donc, l'histoire peut être jouée à la fois dedans, dehors, et on peut apparaître, disparaître par ce fond de scène. La forêt devient une extension de la scène, un prolongement. Et on le voit, hein, les feuilles de la forêt sont déjà sur le plancher. C'est là, finalement, on est à la lisière, mais c'est très poreux, intérieur, extérieur. La forêt, c'est un endroit de fantasme, c'est un endroit qui est féerique, c'est un endroit assez symbolique aussi, c'est un au-delà, un autre monde. Ça peut être aussi un endroit qui est inquiétant et en même temps un endroit qui est rassurant. C'est quelque chose qui vient comme ça à stimuler notre imaginaire. Et le public qui vient au Théâtre du Peuple attend toujours avec beaucoup d'impatience ce fameux fond de scène qui s'ouvre sur la forêt. Et c'est à chaque fois un enchantement, un émerveillement. Et parfois, on a même du mal à croire que c'est la réalité. On peut s'imaginer que c'est, je ne sais pas, une toile peinte, une projection. Et en fait, on devine que c'est la réalité en sentant l'air frais qui passe sur notre visage quand les portes s'ouvrent et puis qu'on voit bouger les feuilles dans le vent. Et c'est assez fascinant qu'une chose aussi simple que simplement d'ouvrir des portes sur l'extérieur continue de nous fasciner et vient comme ça nourrir notre imaginaire. Et je crois que ça vient toucher vraiment profondément les gens. C'est assez magique.
Il y a toujours un toute petite chose qui va faire que ça va bouger, un animal, un oiseau. C'est ce qui fait que les gens parfois réalisent que c'est pas du tout un décor. parce que d'un coup, il y a un oiseau qui passe, un bout de vent qui fait bouger les branches. Et là, d'un coup, ça devient... Non, mais mince, en fait, c'est pas une carte postale, c'est pas... C'est fou, c'est vrai, c'est réel, dans toute la force du réel, réel, quoi. Quand on lève le voile, ça vous émeut. Et on a parlé d'enfance et tout ça, on met un peu les mots qu'on veut, peut-être qu'enfance, c'est pas bon, mais ça vient directement te connecter, te brancher à... Bah, je sais pas quoi, mais un truc puissant. Alors, on se trouve au pied du Grand Fou. Fou, Fao, Fayard, Fagus. Donc le grand être qui nous trône au fond de la scène du Théâtre du Peuple. On est derrière et on le contemple. C'est un arbre particulier. Alors, c'est vrai qu'il attire tout de suite l'œil très fort. Il a des collègues aussi autour. Il y a un érable, il y a un autre être un peu plus loin. Il y a même un tout petit que nous, on a déplacé, qui est un de ces petits qu'on a déplacé pour mettre en face en se disant ben « En fait, Fagus, à un moment, il ne sera plus là. Donc peut-être qu'il faut que nous, on pense à son successeur. » Donc on a planté il y a quelques mois un de ces petits qu'on a déplacé de quelques mètres pour qu'il prenne mieux la lumière et pour le mettre en face en se disant « Il sera possiblement le successeur. » Mais bon, pour l'instant, Fagus va bien. Il y a un truc que je trouve d'absolument fascinant, c'est que on le regarde, il est vraiment pas loin du tout. Hein. Il est à quelques mètres de la grande cabane donc, du lieu. Hein, ça monte très très haut là. Et si tu vois, on regarde bien, on voit qu'il n'y a pas de timidité entre le bâtiment et l'arbre, alors que tous les autres arbres autour ne le touchent pas, ne touchent pas le bâti. Ce être touche le bâtiment, comme s'il s'embrassait quoi. Et ça, moi, ça m'émeut énormément. Ma collègue Héloïse dit que c'est le être le plus applaudi de France, voire même du monde. C'est vraiment la raison de ma venue ici, c'est lui. C'est la rencontre avec ce être et cet être. J'avais pas spécifiquement un rapport aux arbres, ni en tant qu'humaine, ni en tant qu'artiste. Enfin, j'ai une sensibilité, mais voilà. Le coup de foudre, il s'est vraiment produit avec lui. C'est le fait de le voir comme ça, alors encadré dans l'espace d'une représentation. Peu importe d'ailleurs le spectacle, ça a juste été de le voir et de me dire, mais en fait, il y a quelque chose dans ce bout de vivant-là qui m'attire irrésistiblement. À chaque fois qu'il y a des réflexions importantes qui doivent se prendre, je trouve important de le faire à ses côtés. Je trouve important de me poser au pied de cet arbre, de réfléchir. Sa présence m'aide à me sentir plus réceptive. Plus fertile. Et il faut pas que je perde le contact. Les arbres ici sont nos collègues, c'est vraiment ça pour moi. Comme la nuit est tombée et qu'il commence à faire froid, on s'est retranché dans les bureaux chauffés. Et là, on a bien vu qu'il faisait froid dans le théâtre. Il va faire froid des fois jusqu'à début juillet. On n'est pas équipé pendant. Enfin, il n'est équipé que pendant la saison d'été. Donc, on emprunte nos projecteurs à nos collègues de la Comédie de Colmar, du Théâtre National de Strasbourg. Enfin, voilà, on n'a pas de choses à nous puisqu'on peut pas les stocker, ça gèlerait. On a quelques petites choses, mais la plupart des choses c'est prêté pour l'été. On nettoie complètement le lieu, on le rééquipe au printemps, puis on crée les formes qui vont être jouées pendant l'été. Elles sont jouées, puis ensuite on démonte à l'automne. Il y a cette petite dormance pendant un temps. Et c'est pour ça aussi que dans ce que je cherche, je me dis que peut-être il faudrait raisonner en termes d'années plus longues, avec ce rythme des saisons, mais peut-être se dire que là, moi j'ai choisi de lancer un ouvrage, un élan, enfin je ne sais pas, qui s'appelle « Vivante ». Et qui va couvrir les deux prochaines années. Pour se dire qu'on s'inscrit un peu plus dans la durée aussi. Comment est-ce que nous, on propose un autre rythme ?
et en s'ajustant aussi au rythme naturel des saisons, en essayant de déployer un peu plus de l'attention à notre sens de la durée et à la nature qui nous inspire.
C'est un théâtre qui est habité. On a des chauves-souris l'été qui viennent certainement se nourrir des insectes attirés par la lumière des projecteurs. Donc en particulier, au moment des spectacles qui sont joués en soirée, on peut deviner des chauves-souris qui voltigent au-dessus des interprètes. On a une petite communauté de Loire qui vient passer du temps ici l'hiver. Et on a déjà trouvé une chouette qui avait élu domicile dans une loge. Parfois, on devine des nids qui ont été installés sur une poutre entre deux planches. Et évidemment aussi des plus petits animaux, des insectes qui sont présents partout ici. Et ça, on y est particulièrement attentif depuis quelques temps, depuis notamment l'arrivée de Julie Delisle. Et là, on entre dans un nouvel élan qu'on a intitulé « Vivante ». Et on a choisi de faire connaissance avec justement les vivants avec lesquels on cohabite au Théâtre du Peuple. Et donc on a proposé à des naturalistes de venir faire un inventaire de la biodiversité au Théâtre du Peuple, donc à la fois à l'intérieur mais surtout à l'extérieur, donc la botanique, donc la flore, la faune. Donc il y a des naturalistes qui ont commencé un inventaire. Et peut-être que cette matière scientifique, naturaliste, qu'on a commencé à récolter donnera lieu à une création. En tout cas, on souhaite lui donner une forme poétique puisque c'est le langage qu'on cultive ici au Théâtre du Peuple. Et peut-être que dans la devise du Théâtre du Peuple, la devise de Maurice Potcher, « Par l'art pour l'humanité », peut-être que dans l'humanité, lui avait déjà senti que c'était pas seulement les humains, mais que c'était aussi tous les vivants. Il y a le vivant à l'intérieur, il y a le vivant à l'extérieur, et les vivants, ils sont multiples. Et c'est important de se décentrer aussi et d'ouvrir son regard, son attention sur ce qui nous entoure et pour continuer à cohabiter parce qu'on est interdépendants. Et je crois que si ce théâtre fête cette année ses 130 ans, c'est aussi parce qu'il a su aussi être à l'écoute de son environnement.
Moi, je suis arrivée avec un projet d'écologie profonde. Un projet qui inclurait, si on suit ce que Guattari a écrit dans les trois écologies, l'écologie mentale, l'écologie sociale et l'écologie environnementale. Et ce serait ça, l'écosophie ou l'écologie profonde. Et puis en suivant aussi la pensée d'un philosophe norvégien montagnard qui s'appelle Arne Næss. Et j'ai le sentiment que l'écologie profonde est une manière d'être au monde qui pourrait répondre aux défis de l'époque. C'est grâce à la poésie, grâce aux poètes en fait, qu'on gagne en sensibilité, qu'on arrive à affiner. Et là, d'un coup, ben en fait, tout ce qui paraît être des voies sans issue, des énormes montagnes qui se trouvent devant nous avec pas de solution, parce que d'un coup, voilà, on se retrouve complètement solastalgique ou je sais pas, éco-anxieux. Enfin, tout ce qu'on vit là dans la société, puis alors avec les paquets de crises qu'on a, il y a vraiment des bonnes raisons de pas être bien, quoi. Je pense et je crois que la posture de l'écosophe, donc de ce sage de la maison, oikos, sophia, la sagesse, est une vraie voie. L'écosophe, c'est celui qui, face à la montagne, comprendre, observer, attendre. Sentir et puis s'apercevoir à un moment qu'il y a finalement un petit chemin que tu n'avais pas du tout vu au départ, qui n'est pas la grosse route qui s'est éboulée, là, voilà, le truc impossible, et qui va te permettre de monter petit à petit, en sinuant, en ayant l'impression qu'à des moments, tu t'éloignes complètement de ton but. Donc voilà, là, je ne sais pas, il y a des, on va dire, des principes de sérendipité, par exemple. La sérendipité, c'est quand tu trouves un peu sans chercher. Enfin, en tout cas, tu ne sais pas très bien ce que tu cherches, mais tu tournes autour et tu découvres des choses comme ça, un peu. Des choses qui sont de se dire que tout peut arriver à tout moment. Et le facteur joie, il est au cœur de la pensée écosophique. Et il y a toutes les formes de joie. Il y a la tristesse joyeuse, la joie de la colère, il y a l'expression de la joie dans toutes ses dimensions. Hein. Ce n'est pas que simplement sourire au monde et trouver que tout est merveilleux. Et être... C'est cette espèce d'état, le seul état dans lequel tu peux être dans un apprentissage et donc une modification des comportements. Rien ne s'imprime à l'intérieur de toi si ça n'est pas passé par la joie. Une fois que je crois qu'on comprend ça, ça guide énormément. Est-ce que cette décision te génère... Et je ne parle pas de plaisir. Prendre ce paquet de bonbons et tant pis, va te procurer un plaisir immédiat et tout ça, mais est-ce que ça te génère une joie profonde? Et ça, c'est ce que je crois Ernest, il essaye de dire aussi. Voilà, il est spinoziste. Et ici, ce lieu, il a, on revient en fait au début de notre échange, il a cette capacité à générer, à accompagner, à porter, à sublimer notre joie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais absolument pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas, mais je sais que ça se passe. Et là, d'un coup, ben en fait, c'est là que je pense qu'on peut changer le monde. Parce qu'on a un lieu qui fait ça. Donc il nous prépare notre petit terrain du cœur, quoi. Il nous prépare à l'intérieur. Et quand on repart du théâtre du peuple, je crois qu'on peut prendre des décisions. Je crois qu'il y a des décisions importantes. En tout cas, moi, il y a une décision qui a changé ma vie en venant ici. Donc si ça s'est produit pour moi, ça peut se produire pour tout le monde.
Pour certaines personnes, quand elles entrent dans le théâtre, il y a une sensation d'un lieu religieux, spirituel. Je pense qu'il y a le rapport scène-salle, ce rapport frontal qui peut rappeler l'assemblée avec l'autel. C'est vrai qu'un théâtre, finalement, c'est un lieu de communion, c'est un lieu sacré, c'est un lieu de partage. Et il y a peut-être les bancs bois qui nous rappellent aussi les bancs d'église. Peut-être la lumière qui traverse... les carreaux ici, qui ne sont pas des vitraux, mais presque, qui rappellent aussi cette ambiance de recueillement. Donc c'est vraiment un lieu qui a une forte saisonnalité, puisque n'étant pas chauffé, on dépend vraiment des saisons et des températures. Et donc notre activité, elle s'adapte à la saisonnalité.
La première chose qui m'a interpellée quand on est rentré, c'est qu'on s'est mis à chuchoter presque naturellement.
Ah. Oh, ça, c'est moi. Oui, oui. Ah, c'est moi, je pense. Ah, oh, mais on peut parler très fort hein, dans le théâtre, il n'y a aucun souci. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire du bruit comme ça. Généralement, l'été, quand le spectacle plaît beaucoup au public, le public applaudit très chaleureusement, mais aussi tape des pieds comme ça dans la salle. Et donc, il y a tout le plancher de la salle qui résonne. Et ça, c'est une tradition. Et nous qui sommes dans les bureaux, généralement, à ce moment-là, on a les murs qui tremblent. Voilà. Quand le public est content, il tape des mains et des pieds.
C'est un lieu qui accompagne une certaine introspection, on pourrait dire. Un certain lien au calme intérieur. C'est pas aberrant de le comparer à un lieu de spiritualité, comme une église, un temple. Il te rend plus calme. Pour peu que tu te laisses faire, en fait, c'est ça aussi. Alors là, on est à l'automne, l'hiver, tout ça, ça va paraître plus facile. L'été, quand il y a tout le monde, tout le temps, partout, et puis cette frénésie, ce truc très, très humain, très, très bruyant, envahissant à des moments, c'est plus dur, mais il y a toujours des petits instants. Et puis c'est un lieu qui, la nuit, alors, est pas du tout silencieux la nuit. Absolument pas silencieux. Quand on passe une nuit dedans, on s'en rend compte. Il y a des animaux qui passent dedans, et puis ils craquent. Il craque tout le temps. Parfois, si tu peux entendre le vent aussi. Mais pas que par rapport au lieu. Si les portes sont ouvertes, tu vas entendre le vent dans les arbres. Et alors, quand il pleut ou qu'il y a carrément un orage, il y en a l'été, etc. Là, c'est très puissant. D'un seul coup, ça frappe la tôle du toit, qui résonne comme de la tôle. Donc très, très, très bruyant. On ne s'entend plus. S'il y a une grosse averse, on ne s'entend plus dans le théâtre. Il peut y avoir des niveaux de son extrêmement élevés comme des niveaux de son extrêmement bas. Là, c'est vraiment très impressionnant. J'aime y être la nuit, j'aime y dormir, voilà. Donc j'ai mon petit carnet parce que depuis des années, j'ai une espèce de mini passion naturaliste, mais vraiment très très humble. Voilà, donc j'étais contente de noter que j'avais entendu un loir tel soir en étant dans le lieu. Là, pour les premières fois que j'ai entendu les loirs qui font un cri très spécifique comme ça. Voilà, donc j'avais mon petit truc. On a suivi une couvée, enfin plusieurs couvées de rouge-queue qui ont eu lieu un été. Donc on a vu, voilà, on surveillait. On a même retardé une partie des travaux pour fermer le bar en bas parce qu'en fait il y avait une couvée. Donc tant que les bébés n'étaient pas. Voilà, c'est cette attention qu'on a voulu avoir en se disant il n'y a pas que nous. Là, l'urgence, c'est un peu de laisser la place en fait. Moi, j'ai toujours été chagrinée par cette hiérarchie des éléments du vivant qui était un peu imposée dans nos sociétés et que je n'ai jamais comprise, qui me dépasse, mais totalement. Et ça, c'est très dur. Je suis venue en 2021 et je suis arrivée ici le 2 octobre, enfin j'ai prise de fonction le 2 octobre 2023. Donc ça fait 2 ans. Et je suis toujours aussi émue, j'explique pas. D'un seul coup, un lieu, un endroit où on se dit c'est là que je dois être. Voilà. Et on n'en doute pas. Ça m'est arrivé de ne pas sentir de différence entre le lieu et moi, entre le lieu et mon corps. Des fois, j'ai l'impression que c'était un peu envahissant. C'est vertigineux. Mais en tout cas, je trouve ça beaucoup plus excitant que d'avoir un rapport à l'outil. Se dire, je dirige un lieu, c'est un outil, c'est même un écrin, et je viens poser mon geste de mise en scène dans un outil. Enfin, je l'utilise comme une boîte, et je fais ça avec un ton comme ça. Mais je trouve ça hyper dommage de ne pas profiter de ce qu'il peut donner, parce qu'il donne énormément. Énormément.
Il n'y a pas pire douleur chez la bête que la solitude de son pas. Perdre la trace du silence et trouver un vacarme à son propre souffle, à son cœur qui bat. Les truites sont cachées sous les berges et je les pêche à l'épouvante. Battant des pattes ou retournant le sable jusqu'à la vase. Il y a dans leur ventre quelque chose qui m'affole. Le goût des abeilles qu'elles ont gobées. Quelle surprise délicieuse que ces croustillons gorgés de miel au milieu des viscères laiteuses et de la chair glacée. Corbleu, un tel grouillement d'abeilles. Mais c'est un bonheur impossible à décrire, moi qui n'ai jamais mangé que pour le ventre plein. Je me suis fait une coulée. Depuis le haut de la forêt jusqu'aux gorgées de miel, et j'y cours, avec cette faim terrible que rien ne sait calmer. Comment aurais-je reconnu l'odeur de l'homme, moi qui l'avais tant oublié ?
Je suis la bête, c'est mon premier geste de mise en scène. Donc en 2018, j'ai créé ce spectacle que j'ai mis en scène et dans lequel je joue.
Les bêtes auraient une parole si elles naissaient dans les maisons.
Seule humaine, et qui est l'adaptation d'un roman de Anne Cibran,
qui est un roman qui va parler très fort de la forêt, du lien avec les bêtes, au travers de l'expérience d'une petite fille qui, à l'âge de 2 ans, est abandonnée dans le placard d'une maison, dans une forêt, sans chemin ni personne, qui devrait mourir, mais qui va être adoptée, on va dire, soignée, élevée par un animal sauvage qui va lui apprendre la vie et la langue des bêtes. Et elle va raconter cette histoire-là à nous, humains.
Les mots rebondissent sur les murs. On a le temps de les entendre, de les attraper. Tandis que le terrier absorbe. On ne sait plus son cri d'avant au cri qui vient. Si bien qu'on se décourage. Et puis qu'à force, on se tait.
C'est un être qui est à la lisière. Et la forêt existe très fortement dans cette œuvre et dans le spectacle. Et moi, j'ai travaillé sur le noir. Parce que très vite, j'ai senti que dans un théâtre, je ne pouvais pas faire venir la forêt, je pouvais la suggérer, et la meilleure suggestion qui était possible, c'était celle de l'imaginaire. Et donc le noir permet cette projection imaginaire, et donc il y a une scénographie spécifique qui permet ces projections, et de travailler aussi beaucoup sur le silence. Ce spectacle, quand je l'ai créé et qu'il tourne depuis, beaucoup de gens, effectivement, me parlaient de l'expérience du théâtre du peuple qu'ils avaient. En se disant, je suis la bête, ça parle de la forêt, le théâtre du peuple, c'est un lieu dans la forêt avec les portes qui s'ouvrent, il faut absolument jouer dans ce lieu-là. Puis quand je suis arrivée à la direction du lieu, il y a eu aussi ces réactions, ben, en fait, il faut jouer dans le lieu. Moi, dès le départ, j'étais vraiment mais totalement opposée au fait de le jouer dans le lieu, puisque je travaillais sur le noir. Et le silence, et que j'étais dans un lieu pour eux où il n'y avait aucun noir et pas de silence, puisqu'on entend les gars qui passent sur la route à côté, le mec qui parle dehors, qui marche sur les gravillons, qui a des trous partout. Donc en fait, ce noir sur lequel je me basais n'existait plus. Et donc, tout de suite, j'ai dit, ça n'a aucun intérêt de jouer ce spectacle. Mon spectacle va être démoli dans le lieu, il ne pourra pas exister. Et je ne vais pas le recréer pour le lieu. Et il y a eu une quantité de petits signes qui m'ont obligé quelque part à tourner ma réflexion vers l'accueil de ce spectacle. Et donc, en me reposant avec le spectacle dans le lieu, en retravaillant une dizaine de jours, là, d'un coup, est apparue cette idée qu'il ne fallait pas être... Le démarrage du spectacle, quand il est joué en salle de théâtre, on va dire normale, se fait dans le noir total. Les gens sont plongés dans une atmosphère de noir total, ils perdent tous leurs repères. Là, ce n'était pas possible. Par contre, ce qu'ils pouvaient, c'est se retrouver dans la cabane dans laquelle la petite fille avait été laissée, et vivre cette expérience-là. Donc on a décidé de modifier complètement l'entrée du spectacle en faisant rentrer les gens par la petite porte, une porte par laquelle ils n'ont pas l'habitude d'entrer, dans des niveaux d'éclairage qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, avec des projecteurs qui font des raies de lumière comme ça, et de se retrouver eux dans une espèce de cabane géante, mais une cabane quoi. Et le spectacle commence avec cette sensation de l'enfant dans la cabane, donc ils sont encore plus proches de cette petite Méline qui témoigne. Deux, j'ai été laissée à 2 ans dans cette cabane. Et comment on fait le choix de vivre avec la lumière et avec le soleil qui n'est pas le même quand il arrive sur le plateau pendant l'espace de toutes les représentations qu'on va donner sur l'espace de 1 mois et demi, 2 mois. On n'a pas du tout le même soleil au même endroit de la pièce. Ça ne veut pas du tout dire dramaturgiquement la même chose quand on ouvre les portes. Ça, c'est absolument passionnant. Et je trouve ça ultra novateur.
It's Irena! Wow! Oh yeah! Driver, my Sirena! On the time, man, a hill or go, drinking out of pain, out of cocoa, leaning out of pain, and high, playing my bird, I'm gonna go all the way. Hey! Yippee ha, yippee ho, 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 yippee.
J'ai constaté, par exemple, qu'il y avait un tribut à payer dans le lieu, ce qui n'est pas le cas dans notre théâtre. Que moi, j'ai évalué à peu près 15% de ce que tu donnes qui est pris par le lieu. Je ne sais pas comment. 15% de ta voix disparaît, 15% de ton investissement corporel disparaît. Ça, je ne le savais pas. C'est-à-dire que je disais à mes acteurs en étant en face, « Oui, il faut donner. » Mais là, je l'ai éprouvé en tant qu'interprète, qu'il y a vraiment une part de truc qui part, je ne sais pas où, qui est mangée. Qui sert à... J'ai l'impression que ça sert à nourrir la bête lieu. Et j'étais très heureuse de le donner, mais au début, ça m'a fait râler. Je ne comprenais pas où passaient les choses. Et ça, pour moi, c'est, tu vois, une manifestation clairement du lieu qui se nourrit de vivant et donc qui ne peut être que vivant.
je ressens que je ne suis pas seule. Je ne me sens jamais seule dans le lieu. On parlait de la ruche tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est pas pour faire la comparaison avec la reine. Parce que quand j'utilise cette métaphore, c'est arrivé que d'un coup, on dise « Ah bah oui, bah forcément, il y a la reine. » Mais la reine, c'est pas moi. On est tout un tas d'ouvrières à nos places. On est tous ensemble à nos fonctions, à œuvrer pour un projet dont on a conscience qu'il est plus grand que nous.
Ce que ça représente pour moi de travailler au Théâtre du Peuple, il y a la sensation d'être à l'œuvre, de faire œuvre. Il y a la question du collectif, de faire ensemble. Et je crois que ce qui est important pour moi aussi, c'est que je me sens utile à la société. Et j'ai l'impression que, bien que ce soit une toute petite chose à l'échelle du monde, et même ne serait-ce que de la société française, je crois que ce qu'on fait ici, ça compte et que ça participe à créer une société meilleure. Donc ça donne beaucoup de sens à mon travail. Je crois qu'on a besoin de lieux, d'espaces comme celui-ci pour se sentir vivant. Cette année, on a fêté les 130 ans du Théâtre du Peuple, c'était le jubilé. Et ça a été l'occasion pour nous, au théâtre, de soigner la relation avec le village. C'est une question qui nous préoccupe en permanence, la question de l'ancrage du territoire. Qu'est-ce que c'est que le territoire? Quels liens les habitants entretiennent avec le Théâtre du Peuple? Et avec l'enquête sociologique qu'a menée Anne Labi, ça a vraiment révélé que ce lien avec le théâtre, il n'est pas évident, et surtout, il est vivant. Et il y a eu des moments où il a été fragilisé, distendu, rompu, renforcé, multiplié et oublié. Ce théâtre, il n'existerait pas s'il n'y avait pas tous ces gens qui donnaient de leur temps, de leur cœur, pour que ce soit un lieu vivant, un lieu où il y a de la diversité. Et c'est vraiment grâce à cette solidarité que les choses sont possibles.
Je suis Anne Labi, enseignante-chercheuse en sociologie. Je suis au Théâtre du Peuple sur une mission. Julie Delisle, la directrice du Théâtre du Peuple, m'a sollicité pour travailler sur cette question du lien entre le théâtre et le territoire dans ce nouveau régime climatique. Elle propose que ce Théâtre du Peuple, qui était inscrit dans un paysage, dans un environnement forestier, montagnard, qui a été construit, conçu, joué avec des habitants d'ici, de ce territoire, de revenir finalement à la source du projet des Potchères, mais aujourd'hui, réinventé au XXIe siècle, avec les habitants d'aujourd'hui, avec le territoire d'aujourd'hui, avec les problématiques sociales, environnementale d'aujourd'hui. Et donc, c'est réinventer ce projet-là avec un projet artistique et aussi philosophique, politique, qui ne soit pas que les représentations de l'été. Même si ça reste le cœur de ce théâtre, mais ça n'est pas que ça. Il y a un projet avec l'école d'impliquer les enfants dans un inventaire de la biodiversité dans le parc du théâtre. On a deux autres projets. Il y en a un sur la question des attachements à la terre et l'autre sur la question de l'eau. Et qui dit eau, dit sol, dit forêt. Voilà. Et donc là, on est sur deux projets menés par des collectifs qu'on est en train de constituer qui réunissent des chercheurs, des artistes et des habitants. Et ces projets-là, il faut qu'ils se fassent dans les deux ans qui viennent, dans le cadre du mandat. Ce qu'on souhaite faire, c'est redonner effectivement de la capacité d'agir à petite échelle, de se saisir de ces sujets là où ça se passe, en partant des préoccupations intimes, des colères, des envies, pour reconstruire effectivement de la capacité à agir, notamment sur les questions environnementales, sur les questions démographiques, sur les questions économiques, voilà.
Il y a un attachement viscéral au lieu, hein. C'est animal en fait. Tu verrais, il rentre, il le touche, il le sent, certains le caressent. Et puis, dès qu'on aborde le sujet du lieu, c'est des réactions émotionnelles très très fortes, quoi. Un attachement comme ça, très fort. Il y a, depuis que je suis ici, et probablement depuis bien avant, mais en tout cas, moi, je fais l'expérience depuis que je suis ici, d'une quantité d'histoires, mais toutes plus dingues les unes que les autres, sur le lieu, que si je les racontais... En fait, tu es obligé parfois de les raconter tout de suite quand elles se passent ou de trouver des preuves parce qu'on n'est pas cru au bout d'un moment tellement c'est... Je crois que c'est des fois aussi libérateur de parler de ces histoires-là parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça très normal, des gens qui vont dire elle est complètement tapée. Mais ça libère aussi tous ceux qui ne savaient pas trop quoi en penser. Il y en a tout un tas. J'aimerais bien raconter une histoire qu'à... Je la raconte quand on est dans le lieu pour les gens qui sont... Je te la raconterai après en off.
C'était le Vivant Théâtre du Peuple avec la directrice Julie Delisle, la sociologue Anne Labi, missionnée par le Théâtre du Peuple, et Héloïse Erard, chargée des relations avec les publics. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.